Édouard Philippe a dit ce jeudi vouloir assouplir le statut des agents publics à travers la rémunération au mérite ou le recours accru aux contractuels. Et c'est ça qui aujourd'hui fait principalement débat, avec également un plan de départ volontaire qui est annoncé. Bonjour Mathieu Plane.
Bonjour.
Vous êtes économiste à l'OFCE. Qu'avez-vous compris de ce plan gouvernemental?
Alors, ce que j'en ai compris, c'est que d'abord, il s'inscrit dans le programme d'Emmanuel Macron lors de la campagne présidentielle, qui a été confirmé, c'est-à-dire la réduction importante de la sphère publique. Globalement, on parle de 120 000 réductions de fonctionnaires ou d'emplois publics sur le quinquennat. Et donc, il y a la mise en pratique de ça et les objectifs pour les atteindre. Et on voit que ça passe par ce plan qui a été annoncé avec différentes choses, mais notamment, effectivement, des mots qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, qui sont notamment le fait d'avoir un plan de départ volontaire, qui sont effectivement plutôt dans le cadre d'un plan social, dans le cadre d'une entreprise privée. Voilà. Et puis l'ouverture plus facile, notamment contractuelle. Et c'est vrai que ça, c'est quand même une nouveauté.
On entend souvent dire, Mathieu Plane, que ça n'est pas évident de comparer le nombre de fonctionnaires, puisqu'on dit toujours qu'il y a beaucoup de fonctionnaires en France, donc il faudrait comparer par rapport aux pays européens. Et ça n'est peut-être pas aussi simple que ça. Expliquez-nous pourquoi.
Oui, non, c'est pas. Alors, c'est un point important parce que c'est vrai qu'on entend pas mal de choses autour de ce sujet-là. C'est vrai que la France a une part de dépenses publiques dans le PIB parmi les plus élevées du monde, avec la Finlande. Mais cette singularité-là est pas liée, notamment à au nombre de fonctionnaires, au taux d'administration publique. Il faut juste rappeler ça, c'est que à peu près 20% de notre dépense publique est liée justement à la rémunération des fonctionnaires. C'est-à-dire que 80% est liée à d'autres choses, et notamment des transferts sociaux, le modèle de protection sociale, de l'investissement public, etc. Et quand on compare entre les pays, c'est vrai que la France a pas un niveau d'emploi par tête de population finalement si emploi public, si élevé, c'est-à-dire qu'on est dans des trucs assez comparables, des choses assez comparables avec ce qu'il pourrait avoir en Allemagne ou Royaume-Uni, si on considère l'ensemble des services non marchands, c'est-à-dire qu'on regarde pas juste les fonctionnaires, mais en fait des services qui sont financés de façon publique, mais qui ne donnent pas lieu forcément à des postes de fonctionnaires. C'est là où il peut y avoir une différence. C'est vrai qu'en France, on aura peut-être plus de fonctionnaires qu'ailleurs, mais en revanche, ailleurs, il y aura effectivement beaucoup d'emplois parapublics, quelque part, qui ne sont pas directement fonctionnaires, mais en termes de rémunération et de dépenses qui va être liée à ça, finalement, on est à des niveaux assez comparables.
Et oui, parce que la question des rémunérations et des dépenses est effectivement centrale. Par exemple, si on compare les systèmes de soins, a priori, oui, c'est simple de savoir si un médecin est fonctionnaire ou ne l'est pas. Oui. En France, la médecine de ville n'est pas composée de fonctionnaires, et pourtant, on dit que ce n'est pas si évident que cela.
Oui, c'est là où, effectivement, on est dans du service non marchand, c'est-à-dire qu'on voit bien que les prix en partie sont administrés, il y a un remboursement public qui est fait à partir d'impôts, notamment, enfin un financement qui est fait à partir d'impôts ou de cotisations sociales. Et donc, même si on n'est pas sur un champ purement fonctionnaire, si on parle effectivement de la médecine de ville, en revanche, on est sur du service non marchand. Et donc, dans certains pays, effectivement, cette particularité fait qu'on n'aura pas forcément des statuts de fonctionnaire, mais par contre, on sera sur des financements publics. Et donc, on voit qu'en termes d'administration globale, en tout cas de services donnés qui sont des services non marchands financés par des données publiques, on a des choses assez comparables. Une fois de plus, quand on regarde l'Allemagne, le Royaume-Uni, on a des choses assez comparables. Les particularités, elles sont sur les pays scandinaves, qui sont très élevés, pour le coup, beaucoup plus élevés que nous. Et l'autre particularité, ça va être plutôt la Grèce ou l'Italie, qui sont très bas. Donc on voit qu'on n'a pas un schéma aussi simple que ce qu'on peut entendre parfois, c'est-à-dire que la France n'est pas vraiment dans quelque chose de particulier de ce côté-là.
Vous qui êtes économiste à l'OFCE, Mathieu Plane, il y a au moins une différence évidente entre un fonctionnaire et quelqu'un qui ne le serait pas, c'est qu'a priori, quelqu'un qui n'appartient pas au secteur public va chercher à faire un bénéfice dans son travail, ce qui veut dire que si on compare un système de soins public avec un système de soins privé, le second développe une marge. Néanmoins, on a tendance à dire que le système public est moins efficace que le système privé. Qu'est-ce que vous, en tant qu'économiste, vous avez comme élément à ce sujet autour de ce débat?
Non, c'est vrai qu'il y a le risque, c'est-à-dire que effectivement réduire la sphère publique, en tout cas pour montrer qu'on diminue finalement les chiffres d'emploi public, et par contre sous-traiter au privé pose ce risque-là. C'est-à-dire que si on sous-traite au privé, alors il peut y avoir dans certains cas des gains d'efficacité, mais dans d'autres, effectivement, ce que vous soulevez est juste. C'est-à-dire qu'une entreprise privée a besoin de faire des marges, a besoin d'être rentable, a besoin de faire de la publicité, etc. Et donc, il y a des coûts qui peuvent être même supérieurs. Alors, ils passeront pas directement par de l'emploi public, mais ça sera par d'autres choses. Donc, il faut être vigilant, effectivement, quand on regarde ça, et faire attention au fait que l'efficacité passe pas forcément par la réduction du domaine de l'emploi public. Après, ça ne veut pas dire que certaines opérations ou missions ne puissent pas être données au public sur des opérations de numérisation, etc.
Au privé.
Au privé. Et l'autre question qui se pose, c'est effectivement les contractuels. Quoi. Les contractuels, alors ça peut être intéressant.
Parce mais ça, que... justement, en quoi cela représente-t-il un avantage? Parce que, par exemple, des contractuels, on peut les remercier plus facilement.
Voilà. Alors, voilà, l'avantage pour l'État, c'est comme une entreprise, c'est-à-dire qu'il peut ajuster plus vite sur les contractuels. Il n'est pas obligé de les renouveler. Donc, s'il y a des difficultés financières, il ne renouvellera pas. Par contre, se pose la question, c'est quel type d'emplois sont concernés par les contractuels. C'est-à-dire que on a beaucoup de métiers qui sont qualifiés en fait dans la fonction publique. Et donc le risque, c'est la question de l'attractivité des métiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a le gel de l'indice fonction publique, la rémunération en moyenne pour les personnes qualifiées est moins bonne dans la fonction publique que dans le privé. Et si en plus vous modifiez le statut, c'est-à-dire que si vous avez plus de contractuels, il y a la question de l'attractivité d'un certain nombre de métiers, notamment autour de l'éducation nationale, de l'intérieur, de la justice, de la défense, etc., qui sont des postes extrêmement importants.
L'idée de créer différents types de statuts, si on compare par exemple la France avec l'Allemagne, ça c'est quelque chose qui existe dans d'autres pays.
Oui, alors ça existe, hein, et nous, chez nous aussi ça existe, parce que finalement le nombre de contractuels a beaucoup augmenté, hein. Ça représente c'est autour de 25%, un peu plus de 20, enfin entre 20 et 25% selon les fonctions publiques. Il faut savoir qu'aujourd'hui dans les collectivités locales, un recrutement sur deux se fait par des postes de contractuels. Et il faut savoir aussi que les contractuels en fait sont assez développés plutôt sur les, on va dire, les postes les moins qualifiés. Après, la question qui se pose, c'est si on commence à ouvrir sur les métiers les plus qualifiés.
Par exemple,
L'enseignement, par exemple, sur les instituteurs ou les professeurs, sur certaines, dans les métiers de la justice, un certain nombre de choses, où on a besoin d'avoir une sécurité, une stabilité. Une fois de plus, quand vous êtes fonctionnaire, vous passez un concours, vous avez une rémunération en général moindre que dans le privé, mais vous avez la garantie de l'emploi. Donc il faut aussi voir, trouver un espèce d'équilibre qui soit à la fois incitatif pour qu'il y ait des gens qui recrutent à ce type de métier, et puis de l'autre côté, pour que l'État aussi s'y retrouve.
Mais alors, juste là-dessus, pour en terminer avec cette question autour des fonctionnaires, Mathieu Plane, est-ce que l'idée d'une modération salariale pour les fonctionnaires est encore vraie, du fait donc de la modération des salaires dans le privé?
Alors, elle existe de fait. C'est-à-dire que on voit que depuis 2010, on n'avait pas eu de renouvellement de l'indice, enfin de augmentation de l'indice de fonction publique. Il a été augmenté à la fin du quinquennat de François Hollande, hein, mais ça faisait 6 ans qu'il n'y avait rien eu. Et aujourd'hui, on est effectivement dans une forme de très forte modération salariale. Hein, c'est même pas, enfin ça fait une dizaine d'années, effectivement, qui pose la question, surtout pour les jeunes générations, quel intérêt ou l'attractivité des métiers qui sont importants, qui sont des socles effectivement du fonctionnement à la fois de notre économie, mais au-delà de ça même de la République.
Merci beaucoup, Mathieu Plane. Je rappelle que vous êtes économiste à l'OFCE. Il est 7h24 sur France Culture.